Le voici, c'est lui, l'adversaire de nos cultes, le porte-parole de la nouvelle religion, celui qui prêche la destruction de nos temples, celui qui condamne nos dieux en les appelant démons, celui enfin dont la présence nous interdit d'obtenir les réponses accoutumées. Ainsi donc, puisque le sort qu'il mérite vient de nous le livrer au moment opportun, vengeons-nous à la fois du tort qu'il nous fait et de celui qu'il cause à nos dieux. Forçons-le tout de suite, ou bien à leur être agréable en leur offrant un sacrifice, ou bien à les combler de joie en mourant. Extrait de la Passion de Saint Saturnin, début du 5e siècle.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Nombre de Toulousains connaissent Saint-Cernin, Saint-Saturnin occitanisé. Effectivement, nombre de Toulousains savent qu'il a été le chef de la communauté chrétienne, si ce n'est au début du IIIe siècle, mais en tout cas au milieu du IIIe siècle. Tous les Toulousains connaissent aussi son tombeau dans la basilique Saint-Cernin. Mais ce que nous voulons essayer d'éclairer aujourd'hui, c'est le contexte et les circonstances qui peuvent expliquer sa mort comme martyr en 250. Tout d'abord, quelques mots sur Toulouse au milieu du IIIe siècle. Toulouse est une ville qui a obtenu la citoyenneté romaine au 1er siècle. Elle fait environ 15 à 20 000 habitants. Elle est dotée d'un rempart qui date du début du 1er siècle. Et elle compte quelques monuments comme nombre de cités romaines. Elle a un amphithéâtre dans le quartier de Purpan. Elle a un théâtre à proximité du pont Neuf et du début de la rue de Metz aujourd'hui. Elle a un forum sur la place Esquirol où se trouve un temple à Jupiter. Bref, c'est une ville moyenne dans la Gaule impériale du IIIe siècle, mais qui bénéficie d'un relatif prestige, comme le dira Ozone, le poète bordelais. Que sait-on des débuts du christianisme à Toulouse? À vrai dire, assez peu de choses. On sait donc qu'il y a visiblement une communauté chrétienne qui semble connaître une vie religieuse au milieu du siècle. Autre difficulté d'ailleurs, c'est de savoir exactement les origines de Saturninus. La tradition fait de Saturnin un envoyé du pape Fabien depuis Rome. Ainsi, il serait venu de Rome jusqu'à Toulouse pour évangéliser la région. Un peu comme Martial à Limoges ou Trophime à Arles. Est-il vraiment venu de Rome? C'est possible. Ce n'est pas une certitude absolue. Est-ce qu'il serait venu d'Afrique? Pourquoi l'Afrique? Il s'appelle Saturninus, c'est-à-dire fils de Saturne. Or, dans la province proconsulaire d'Afrique, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie, il y avait de nombreux cultes à Saturne, et beaucoup d'habitants de cette province s'appelaient Saturninus. Donc, il est probable, mais sans non plus certitude absolue, que Saturninus soit venu de cette province qui connaît d'ailleurs une christianisation plus précoce que la Gaule. Autre problème, c'est de savoir effectivement les conditions du martyr de Saturninus. Il faut nous replacer dans le contexte du IIIe siècle. L'Empire romain connaît des difficultés. Depuis les années 230, instabilité politique. Les chefs de légion prennent régulièrement le pouvoir pour renverser le souverain en place. Une crise économique frappe également l'Empire. De même que les populations germaniques sur le Danube, les Perses sur le Frate, font des pressions militaires contre l'Empire. Bref, l'Empire connaît une période de difficultés. C'est donc dans ce contexte très précis que l'empereur Dèce, le 3 janvier 250, a pris un édit pour demander à tous les habitants de l'Empire de vénérer les dieux traditionnels et de vénérer l'empereur dans le cadre du culte impérial. Cette décision, qui est faite pour véritablement cimenter les fidélités autour de l'empereur Dèce posent des problèmes aux chrétiens. Parce que si les chrétiens sont des sujets plutôt loyaux de l'Empire, ils ne représentent pour eux rien que de sacrifier aux dieux. De même que le culte impérial ne leur permet pas de percevoir l'empereur comme un dieu vivant. Aussi va se déclencher pour la première fois dans l'histoire de l'Empire romain une persécution générale envers les communautés chrétiennes. C'est donc dans ce contexte que Saturninus va connaître la mort. En effet, le texte dont nous disposons, qui est daté des années 420-430, la Passion de Saint Saturnin, nous raconte les circonstances du drame. Le texte nous explique que Saturnin se rendait accompagné d'un prêtre et de deux diacres vers le lieu habituel de prière des chrétiens, qui devait se situer à l'emplacement de l'actuelle cathédrale Saint-Étienne. Ce petit groupe traverse le forum, donc la place Esquirol. Au moment où, devant le temple capitolin de la triade capitoline, Jupiter, Minerve, Junon, doit avoir lieu un sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice, celui d'un taureau. Or, la foule, ou une partie de la foule, reconnaît Saturnin comme étant le chef des chrétiens qui, justement, se font les critiques de la religion traditionnelle. Les deux diacres et le prêtre s'enfuient, mais l'évêque reste aux mains de la foule. Et on lui demande de sacrifier au dieu traditionnel. Il va refuser. Dès lors, la foudre va tomber sur le malheureux. Lisons un extrait de la Passion. À ces paroles du Saint-Évêque, tout le tumulte de la multitude sacrilège s'embrasa, et du taureau qui avait été préparé pour le sacrifice, après avoir passé une corde autour de ses flancs et l'avoir laissé pendre par derrière, ils font l'instrument de leur cruauté. En effet, avec l'extrémité de cette corde qui retombait à l'arrière de la bête, ils attachent les pieds du saint et ils précipitent le taureau, aiguillonné par des coups très violents, de la partie supérieure du Capitole vers le bas. Dès les premières marches, sa tête fut fracassée. Sa cervelle jaillit et son corps fut disloqué en tous ses membres. Le Christ accueillit cette âme digne de Dieu. Donc le texte nous a décrit, avec même des détails relativement précis, les conditions du martyr. Ces conditions posent quelques questions et quelques remarques. D'abord, Saturnin ne meurt pas à la suite d'une décision de justice. Il meurt parce que la foule le prend à partie et décide de l'éliminer. Il n'y a aucune décision judiciaire. Le texte nous indique même que donc on a attaché Saturnin au taureau, que celui-ci a été excité, on connaît le résultat, un taureau excité est évidemment extrêmement dangereux, et qu'il aurait dévalé les marches du temple, et puis, comme le dit le texte, dès les premières marches, sa tête fut fracassée, sa cervelle jaillit, et son corps fut disloqué. Là, les historiens hésitent, pour ne pas dire contestent. Non pas tant la mort avec le taureau, mais que le taureau ait descendu les marches du temple. Les sacrifices d'animaux tels que les taureaux se faisaient en bas des marches, car il n'est pas évident de faire monter un taureau en haut d'un escalier pour aller devant le temple. Donc le taureau se trouvait sans doute en bas des marches. Ensuite, il est fort possible, effectivement, que Saturnin ait été attaché et traîné sur une distance que nous ignorons exactement et que son corps se soit progressivement disloqué sous la fureur, évidemment, de l'animal qui traînait le corps du malheureux. Donc, effectivement, la question qui se pose ensuite est de savoir ce qu'est devenu le corps. La passion, selon Saint-Saturnin, nous explique que des femmes ont récupéré la dépouille. Sans doute dans la zone autour de l'actuelle place du Capitole. Mais reste que les cimetières, où mettre les dépouilles, se trouvaient en dehors de la ville. En effet, la loi romaine interdit strictement de mettre des corps dans les remparts des villes romaines. À la différence de ce qui se fera au Moyen-Âge, les morts ne sont pas avec les vivants, et donc les cimetières sont à l'extérieur. Or, l'actuel emplacement de la basilique Saint-Sernin était une zone de cimetière, et elle le resta d'ailleurs jusqu'au XVIIIe siècle. La tradition explique que dans un premier temps, avant d'aller sur l'emplacement de l'actuelle basilique, le corps aurait été déposé à l'emplacement de Notre-Dame du Thor. Le problème, c'est que les éléments archéologiques qui ont été faits sous l'église Notre-Dame du Thor ne montrent pas de lieu de sépulture. Le plus probable est qu'il a été placé directement sur l'actuelle basilique et que le sarcophage où il a reposé se trouvait dans le cimetière de l'actuel emplacement de Saint-Sernin. Ce que l'on sait par la suite, c'est que dès le IVe siècle, il y avait un édicule au-dessus de la tombe et qu'au XIe siècle, on a construit un édifice dont on a des traces archéologiques et sur lequel, à partir des années 1070, on a construit l'actuelle basilique Saint-Sernin.